Vues et Voix.
Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour, c'est Hélène Denis, très heureuse de vous retrouver. Merci beaucoup à Denis Martin Chabot d'avoir été à ce micro ces derniers jours. Je lui rends grâce. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour Hélène Denis, bonjour tout le monde.
Mathieu, le mycologue en herbe. Il me racontait qu'il était allé aux champignons encore une fois le week-end dernier.
Eh oui, il va tant qu'il y en a, mais oui. Il y en a de moins en moins puisque l'hiver approche.
Oui, vous m'avez montré des photos de champignons que je ne connaissais pas.
Eh bien, nous non plus.
Et vous êtes à la recherche du champignon poulet?
Exactement, on ne l'a pas encore trouvé, mais dès qu'on le trouvera, on vous en parlera.
Parfait. Alors, Mathieu est là jusqu'à 11 heures puisque l'émission dure 1h30. 9h30, 10h30,
1h30.
Ouais, 1h30. C'est le 15 octobre 2025, ça j'en suis sûre. Et autour de la table, il y a de la visite. Bien, de la visite, ce sont mes collaborateurs, mais c'est parce que Daniel, vous êtes considéré comme de la visite vu que vous êtes rarement avec nous en studio. Et on l'apprécie toujours, ben, Daniel Lachance.
C'est un peu ça le but de,
ben, oui, hein?
De créer une absence. Pour...
À chaque fois, c'est un événement.
Ben, oui.
Et puis, Daniel, vous allez nous parler aujourd'hui d'un groupe d'imposteurs.
Oui. Ouais. Je veux juste mettre un petit peu en contexte. On entend beaucoup parler dernièrement. Il y a beaucoup d'artistes qui ont des craintes par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle. On dit qu'il y a des créations qui se font par l'intelligence artificielle. Il y a même des faux artistes qui sont créés par l'intelligence artificielle. Ça fait craindre beaucoup de monde. Sauf que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'intelligence artificielle pour se faire avoir. On s'est fait avoir une couple de fois, pas à peu près. Puis je vous parle aujourd'hui de un, même de deux cas très typiques d'imposteurs, si on peut dire, qui ont eu beaucoup de succès avant que les gens se rendent compte que c'était pas eux qui chantaient.
Merci, Daniel. Mais vous êtes là pour vrai.
Oui, j'espère bien.
Serge est de retour, lui, qui était enrhumé la semaine dernière.
Enrubanné.
Oui.
Enrubanné, oui.
Et aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi, Serge?
On a eu, en 1930, on a eu de la grande visite. Je vais vous parler de ça.
On n'était pas né personne, hein, 1930?
Non,
même mes parents
personne.
N'étaient pas nés.
Non.
Merci. Isabelle est au bout du fil. Bonjour, Isabelle Falardeau.
Bonjour.
La une du Journal de Montréal vous a intéressée ce matin.
Oui, et merci d'avoir attiré mon attention là-dessus. C'est tellement intéressant. Des centaines de tomates qui poussent dans le fleuve.
Dans le
Alors,
fleuve?
Alors, normalement, il y aurait de l'eau. Ben, c'est parce que c'est normalement, il y aurait de l'eau, mais là, c'est tellement sec.
Ah oui.
Alors, oui, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à Longueuil. Alors, c'est vraiment intéressant.
J'en suis convaincue. Merci d'être là. Il y a également au menu des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Francopresse, et Christiane Campagna, chargée de communication chez Bibliopresto, viendra nous parler des ressources numériques offertes par nos bibliothèques publiques. On y va avec une première chanson, Lovely Day par Clay and Friends. C'est une chanson qui fait partie de la bande originale du film Mille secrets, mille dangers de Philippe Falardeau. D'après le roman d'Alain Farah. Êtes-vous parent avec Philippe Falardeau, Isabelle?
Oui, le même ancêtre est arrivé de Bigné en France, mais ensuite, il a eu trois fils dans les années 1640 et je suis issue de pas du même fils que Philippe, ni Pierre.
Mais quand même, parente de loin, loin, loin.
J'aurais autant d'informations là-dessus, hein?
Bien, je comprends, je suis assez étonnée. Mille secrets, mille dangers, en anglais, ça s'intitule Lovely Day, donc la version anglaise porte le titre de la chanson qu'on vous offre à l'instant.
Vous écoutez la musique populaire de Verdun. It's a lovely day.
It's a lovely day. It's a lovely day. Des fois, il faut que je me rappelle d'oublier tout le reste.
It's a lovely day.
Réveiller, c'est l'heure de la sieste. Prendre ma neuvième vie, combien il t'en reste? Hey, sur le décalage horaire, le vent lève ta jupe, puis work on your tent. Tu me braques la TD, cassez-vous des blocs comme Dédé. Yo, un peu de jus de raisin, j'parle portugais. Tu deviens une chanteuse, you got the game. Fille de verre de mic, tu manges doucement. Conduis sans le même de toi couvrant. Grande chance de pluie sous le cou.
It's a lovely day.
Des fois, faut que je me rappelle
mal. Oublie les commentaires, pas besoin de ton phare. Dis-moi ton adresse, je m'en vais dans le sud-ouest. Fille de fer d'un bris, je marche doucement. Elle se laisse flotter sur le courant. Mon cœur bat si vite et puis pourtant. It's a lovely day, it's a lovely day. Des fois, faut que je me rappelle de qui est tout le reste. It's a lovely day, it's a lovely day. Des fois, faut que je me rappelle, on est tout le pareil. It's a lovely day, le corps de pitch, je mange doucement.
Clay and Friends, Lovely Day.
À la une de la presse d'aujourd'hui, adaptation scolaire, le Québec champion des plans d'intervention. Un élève sur quatre a droit à des mesures d'aide personnalisées et cette proportion ne cesse d'augmenter, en particulier au secondaire. Les enseignants, eux, se disent débordés. Pourquoi une telle explosion d'aussi important de Léa Carrier à lire dans la presse d'aujourd'hui? Avant, on enseignait à un groupe. Aujourd'hui, on enseigne à des individus. Après bientôt 30 ans à enseigner le français au secondaire, c'est l'image qui vient à l'esprit de Valérie Gagnon. Le nombre d'élèves avec des plans d'intervention a décuplé dans sa classe ces dernières années. Aujourd'hui, il n'est pas rare que le tiers de ces groupes ait droit à des mesures d'aide personnalisées. Grossir la police de caractère sur la feuille d'exercice de l'un, enlever les images distrayantes sur la copie de l'autre, c'est devenu une charge mentale à temps plein. J'ai l'impression qu'on est rendu au bout de ce qu'on peut faire comme enseignant, dit Valérie Gagnon. Au Québec, un élève sur quatre a un plan d'intervention. Leur proportion dans la composition des classes ne cesse d'augmenter, particulièrement au secondaire. Si le réseau scolaire comptait 207 000 élèves en difficulté en 2015-2016, il en dénombrait 281 000 en 2024-2025. C'est une hausse de 36 % en moins de 10 ans, alors que le nombre total d'élèves a augmenté de 17 % au cours de la même période. La presse a parlé à une quinzaine de professionnels de l'éducation pour tenter de comprendre ce que cache l'explosion des plans d'intervention. Tous s'entendent pour dire qu'il y en a trop. Les enseignants se disent débordés, épuisés, pris à gérer des groupes de plus en plus hétérogènes. Plusieurs estiment qu'il est temps de revoir la politique de l'adaptation scolaire encadrant l'application des plans d'intervention qui datent de plus de 25 ans. D'ailleurs, une consultation provinciale demandée, c'est comme si on avait une politique de vaccination qui datait de 25 ans. Pour le psychologue et spécialiste de la réussite scolaire, Égide Royer, il est plus que temps de réviser la politique de l'adaptation scolaire adoptée en 1999. Année après année, le ministère de l'Éducation investit des sommes colossales pour soutenir les élèves en difficulté, 3,7 milliards en 2023-2024, et année après année, la situation semble s'empirer. Manifestement, quelque chose ne fonctionne pas, soulève M. Royer, et injecter des millions de plus n'y changerait probablement pas grand-chose. Vous me demanderez si ce serait bien de mettre un demi-milliard de plus dans les élèves en difficulté, et je vous répondrai non, dit M. Royer. Il demande à Québec de lancer une consultation provinciale pour faire un état de la situation et recenser les meilleures pratiques pour soutenir les élèves en difficulté. À la une du Devoir, le Hamas conserve la mainmise sur la bande de Gaza. Des bulldozers déployés mardi par la municipalité de Gaza ont commencé à nettoyer les décombres des principaux axes et rues de la ville, tandis que le Hamas a étendu sa présence dans l'enclave palestinienne en ruine, menant une campagne de répression et exécutant des collaborateurs présumés. Le mouvement islamiste a aussi remis à la Croix-Rouge quatre nouvelles dépouilles d'otages, a indiqué l'armée israélienne mardi soir. Un autre titre à la une du Devoir de ce 15 octobre, le Devoir qui est aux États-Unis, c'est Fabien Deglise qui est à Washington, la drôle de guerre de Trump contre la pauvreté. Le populiste cherche à faire disparaître l'insécurité alimentaire croissante dans son pays en occultant les statistiques qui la mesurent. Et patrimoine, destruction d'un pont d'exception à Potton. Classé il y a moins d'un an par Québec, cet ouvrage centenaire situé en Estrie sera détruit à la demande du ministère des Transports, un pont magnifique. Et c'est Jean-François Nadeau qui raconte l'histoire. Et finalement, à la une du Journal de Montréal, des tomates poussent au bord du fleuve en raison du manque d'eau. Ce sera le sujet de chronique de notre collaboratrice Isabelle Falardeau. Rentrée réussie à Montréal, victoire du Canadien grâce à Cole Caulfield. Je ne sais pas si vous avez regardé le match d'hier, c'était palpitant. Ils ont terminé donc le match en prolongation avec une victoire Kraken 4, Canadien 5. Isabelle, vous nous parlez des mystérieux plants de tomates.
Oui, exactement. Donc, c'est un texte de Marianne Lafleur dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, comme vous le disiez plus tôt. Plusieurs centaines de plants de tomates ont spontanément poussé sur le lit du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Longueuil. Et c'est un phénomène mystérieux provoqué par la baisse du niveau de l'eau, évidemment, parce que c'est un endroit où normalement il y aurait de l'eau. Et ce phénomène intrigue les experts. Entre autres experts, donc on a consulté Pierre-Antoine Gilbert, agronome et enseignant en agriculture au Cégep de Victoriaville. Lui, ce qu'il dit, ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'endroit et la quantité de plants. Je n'ai jamais vu un tel phénomène le long du fleuve. Et on mentionne là, que lors de son passage hier, la journaliste a constaté que de nombreuses tomates vertes émergeaient du sol sur des dizaines de mètres qui sont habituellement submergés. Et vous avez sûrement vu la photo comme moi, Hélène.
Oui.
C'est impressionnant. Là. C'est comme si, je ne sais pas en termes de terrain de football, mais c'est au moins un terrain de football, je dirais.
C'est assez impressionnant de voir toutes ces tomates vertes.
C'est couvert de plantes de tomates. Ça a l'air d'être des tomates cerises en plus, donc mais ça, c'est peut-être à cause de la photo. Là. Ça donne encore plus le goût de les cueillir. Selon Julien Arsenault, qui lui est professeur en sciences biologiques à l'UQAM, c'est difficile de déterminer depuis combien de temps la graine était présente. Ça se peut que ça fasse des années que la graine soit là, mais que c'est juste cette année que les conditions environnementales ont permis à cette graine de germer.
Ah, peut-être des tomates ancestrales?
peut-être, effectivement, parce que lui dit qu'il y a des graines qui ont survécu des millénaires sans germer. Là, évidemment, je ne sais pas exactement, c'est pas mentionné dans l'article, mais si ces graines-là étaient dans la terre, qui étaient sous l'eau, si elles étaient humides, j'imagine que ça aurait fait en sorte qu'elles n'auraient pas pu préserver leur capacité germinative. Mais en tout cas, peut-être qu'elles étaient là depuis longtemps et que maintenant, vu que c'était exposé à l'air et que bon, les conditions météorologiques, toutes les conditions étaient réunies finalement. On a aussi consulté Yves Comeau, qui est professeur au département des génies civils, géologiques et des mines à Polytechnique. Donc, selon lui, les berges fertiles du Saint-Laurent offrent un terrain qui est favorable à la végétation. Les conditions d'étiage des cours d'eau du sud du Québec, dont le fleuve Saint-Laurent fait partie, ces conditions sont telles que les berges sont exposées depuis assez longtemps pour que la végétation puisse se développer. Mais il devait d'abord y avoir des graines à cet endroit-là pour que ces graines puissent germer. Monsieur Comeau pense que la source la plus probable serait liée au débordement occasionnel de réseaux unitaires en temps de pluie. Là, j'ai été chercher, ça voulait dire quoi ça, des réseaux unitaires? Mais en fait, c'est les fameux systèmes d'égouts là, qui absorbent les débordements quand il y a trop d'eau, soit à la fonte des neiges ou quand il y a des fortes pluies. Mm-hmm. Et donc, cette eau-là se retrouve dans la nature. Et peut-être qu'il y avait des graines qui étaient contenues dans les eaux qui se sont retrouvées dans le fleuve. Et ça pourrait être, c'est l'hypothèse la plus plausible. Les graines de tomates seraient alors d'origine domestique. Donc, quand on prépare de la nourriture, on jette des graines dans nos déchets ou on rince notre bol, ça se retrouve dans l'eau du robinet, du lavabo, pardon, ou encore après l'avoir mangé, la graine se retrouve dans les égouts, vous savez comment.
On ne veut pas le savoir.
Passé par notre système du jeu.
On ne veut pas le voir, en tout cas.
On ne veut pas le savoir et puis on ne veut pas le voir non plus. Selon M. Gilbert, la graine pourrait aussi venir d'un compost de jardin ou de restes alimentaires qui auraient été lancés. Vous savez, on se promène, on mange nos tomates, on jette nos restes quand on est en pique-nique parce qu'on sait que ça va s'en aller dans la nature et ça va se composter. Donc, la théorie, par contre, des eaux usées est plausible cette année, surtout avec le niveau du fleuve qui est particulièrement bas, même s'il existe plusieurs hypothèses.
Isabelle, j'ai cherché la définition du mot étiage, baisse périodique des eaux d'un cours d'eau, le plus bas niveau des eaux.
Voilà. Alors, le niveau de l'eau est à un niveau idéal cette année. Donc, c'est ça, je vous disais que M. Comeau, il favorise la source des débordements de réseaux des égouts. Par contre, M. Arsenault, lui, donc ça, si vous m'avez suivi, M. Arsenault, c'est celui qui est professeur en sciences biologiques à l'UQAM, lui, il dit que ça serait plutôt l'hypothèse du transport des graines par les oiseaux. Il dit qu'il y a beaucoup de plantes dont les graines peuvent survivre dans le transit intestinal de plusieurs animaux, hein, c'est pas juste les humains. Et il suffit qu'un oiseau ait consommé une tomate, qu'elle se retrouve ensuite dans les matières fécales. Et même s'il y a des milliers de plantes, ça pourrait, ne suffire que de quelques graines pour expliquer leur présence, parce que ces graines se seraient multipliées par la suite. Les graines de tomates sont très résistantes. Elles peuvent passer à travers le tube digestif des humains et des animaux sans perdre leur capacité à germer. Moi, je trouve ça vraiment... j'apprends plein de choses dans cet article-là.
C'est très enrichissant.
Et là, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on va les manger, ces tomates-là? Parce que là, il y a des centaines de tomates. Eh bien, malgré leur apparence appétissante, les experts recommandent de ne pas les consommer.
Ah non, pourquoi?
Mais pas nécessairement que ces tomates, les tomates qui poussent sur du fleuve soient toxiques en soi, mais on ne sait pas d'où elles viennent, ni dans quoi elles ont poussé. Il pourrait y avoir des risques sur le plan microbiologique.
Amenez mon goûteur!
c'est ça, exactement. Mais si les fruits proviennent des eaux usées, donc des égouts, évidemment, il pourrait y avoir de la bactérie E. coli, ouais, entre autres. Et on ajoute quand même que la concentration à E. coli, justement, sur les berges du Saint-Laurent à Longueuil, excède la norme fédérale sur 50 % des sites analysés. Donc, il y a des bonnes chances là, qu'il y ait des bactéries qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Donc, ce qui est intéressant ici, en conclusion, ce n'est pas de récolter la tomate, mais d'observer à quel point une simple graine est capable de voyager, de s'implanter et de germer dans un environnement complètement inattendu.
Oui, Daniel est...
Oui, ça, j'imagine très bien avec toutes les petites bêtes qui se promènent sur nos terrains, qui peuvent transporter. D'ailleurs, il y a des écureuils qui plantent des noix chez nous. Il y a des chênes qui poussent chez nous.
Ils se promènent avec des bouts de blé d'Inde, pas pour les humains, là, les blé d'Inde à animaux, dans la gueule. Ah, puis ça sème.
C'est des cultivateurs.
Et moi, framboisier noir, à l'époque, j'avais une maison et les oiseaux transportaient les framboises d'un bout à l'autre du terrain. Là.
Ça travaille fort! Merci beaucoup, Isabelle.
Viens-tu avec moi son père au volet à Saint-Hubert, va donc atteler ta jument, puis au volet voir l'air sans. Mais regarde-moi dans tes noirs, t'as mis ta chemise à l'envers, il y a un trou dedans qui est aussi grand que l'air sans. M'a changé de nom, tes gens, puis m'a tâté l'air sans. Tu rouges l'air sans, tes gus l'air sans, tes pites l'air sans, moi je trouve ça du bon sang. C'est les culottes l'air sans, les pyjamas l'air sans, brassière l'air sans, jetière l'air sans, tout le monde parle de l'air sans. Mais voilà, tu es plus clair, tes culottes sont devant derrière. Quand même qu'on est habitant, faut montrer qu'on a du bon sang. Va donc mettre ton prince Albert pour aller à Saint-Hubert. On partira le cœur content, pareil comme deux jeunes amants. M'a changé de nom, mon Jean, puis m'a tapé l'air sans. Tu rouges l'air sans, tes pites l'air sans, tes gus l'air sans. Moi, je trouve ça du bon sang. C'est les culottes l'air sans, les pyjamas l'air sans, brassière l'air sans, la tière l'air sans. Tout le monde parle de l'air sans. Ma belle-mère qui est en arrière.
Ma belle-mère.
Ma belle-mère.
Alors, Serge, la venue du R100 à Québec, est-ce que ça a rapport avec une belle-mère?
Non.
On entendait la Bolduc.
Oui, c'est ça. Écoutez, la Bolduc, c'est pas la seule qui fut inspirée par cet aréostat ayant fait escale au Québec au début des années 30.
Oui, le ballon, dirigeable.
Comme le Hindenburg qui a brûlé à New York vers la 36, je pense à peu près, 1936 à peu près. Alors, ça a marqué l'imagination de la population québécoise et celle du monde entier. Et ce fameux R100 a attiré beaucoup de foule et en a fait jaser plus d'un. Alors, la petite histoire. On est en 1926. Le Parti libéral de Mackenzie King au pouvoir annonce que, à la suite de la conférence impériale de Londres, la construction d'un aérodrome dans la ville de Saint-Hubert, à proximité de Montréal, sera entamée sous peu. On érigera un mât d'ancrage long comme deux terrains de football, 220 mètres.
On parle beaucoup de terrain de football aujourd'hui. Ah oui. Les tomates d'Isabelle, le R100 de Serge.
Au coût $1 million, soit l'équivalent de 13 millions aujourd'hui. Alors, mais pourquoi tout ce cirque pour un simple ballon gonflable et qui plus est en pleine crise économique parce que c'était en 1929, il y a eu le fameux crack de la bourse.
Moi, je vois le ballon qu'on voyait sur la pochette de Led Zeppelin.
Le Zeppelin, qui s'appelait justement.
Construit par la compagnie Vickers, un conglomérat d'ingénierie britannique, le R100 était considéré comme une création capitaliste. Alors que son frère volant, le R101...
Son frère volant.
Oui.
Pas la sœur volant.
Oui, ça n'en est pas loin.
Monté par une société d'État travailliste, était vu comme une embarcation socialiste.
Ah bon?
Tu sais,
t'as pas soufflé avec la même air.
Non. C'était une vraie course contre la montre alors que les deux équipes, travaillant dans le plus grand des secrets, s'acharnaient à la construction et à l'élaboration de leurs vaisseaux respectifs, lesquels serviraient à exécuter des vols d'essai vers le Dominion du Canada, parce qu'à ce moment-là, on était un Dominion du Canada. On n'était plus une colonie, on était Dominion, puis après ça, un pays. Et vers les Indes, qui étaient à ce moment-là la grande colonie de l'Empire britannique.
Qu'on appelait les Indes à l'époque.
Les Indes, oui.
Les Azindes.
Établir des vols commerciaux rapides et efficaces de façon bi-hebdomadaire entre l'Empire britannique et ses territoires éloignés. Alors, il faudra cependant attendre janvier 1930 avant la mise en place du projet. C'est le ministre de l'Air britannique de l'époque qui trancha. Alors, pour des raisons techniques, certes, mais plutôt politiques, le R100 allait planer vers le Canada, tandis que le R101, embarcation chouchou de la presse londonienne, se dirigerait plutôt vers les prestigieuses Indes, la destination la plus importante. Pourtant, cela n'atténuera en rien le charme et la prestance du dirigeable à son arrivée au Canada. En effet, son voyage complet et son apparition en sol canadien furent diffusés en direct, à la radio, d'un océan à l'autre, et alors que pendant ce temps, des trains bondés de gens arrivaient toutes les heures à la petite station de train de Saint-Hubert, où le CN fut contraint d'ajouter des voies. Et que dire du pont Jacques-Cartier, lequel se nommait à ce moment-là le pont du Havre?
Il y avait beaucoup de monde sur le pont.
L'aéronef demeura amarré pour un total de 12 jours à Saint-Hubert, alors que plus de 3000 personnes de tous les rangs et de tous les âges le visitèrent avec un plaisir enfantin, avant de reprendre sa route vers Ottawa pour finalement rentrer en Angleterre le 13 août 1930. Mais figurez-vous qu'il s'agira du seul et unique voyage du mastodonte gonflable en terre canadienne.
Ah oui, pourquoi?
Ouais. Je vais vous expliquer ça. Par contre, si l'inauguration du R100 et son périple furent un franc succès, cela ne fut point le cas pour le favori des Britanniques, soit le R101, le travailliste là.
Ah.
À l'automne de cette même année, seulement quelques heures après le coup d'envoi de son vol inaugural vers les Indes, ce dernier s'écrasa près de Beauvais en France. Alors, à la suite de ce drame, le gouvernement britannique cessa le projet aéronautique des dirigeables, démontant même celui que l'on surnommera le Titanic des airs, rien de moins. Mais malgré cela, malgré sa fin quelque peu abrupte, le R100, véritable palace volant, représentera pour plusieurs un des plus grands événements du 20e siècle.
Mais là, il n'y a pas eu de victimes, là.
On dit qu'il y a eu des victimes, qu'il y a eu des blessés, mais on dit ça a fait plusieurs victimes.
Pas comme
mais
dans le Titanic.
Non, ben espérons. Alors... Le plus gros dirigeable du monde a décollé de Cardington le 28 juillet 1930 avant de s'attacher au mât d'ancrage de l'aéroport de Saint-Hubert le 1er août, soit 78 heures et 49 minutes seulement après son départ. Le trajet transatlantique de 5400 km se fit sans problème jusqu'à ce qu'il atteigne le fleuve Saint-Laurent. En effet, après une traversée sans encombre, une importante tempête remontant le fleuve le secoua dangereusement, déchirant du coup son enveloppe de lin, qui fut heureusement rapidement réparée. Vers 18 heures, le jeudi 31 juillet, on a pu le voir lentement passer au-dessus de la ville de Québec, avant de plonger environ deux heures plus tard vers Trois-Rivières, s'engouffrant dans une seconde tempête, le faisant piquer du nez à environ 30 degrés. De quoi donner une bonne frousse aux 46 passagers et membres d'équipage à son bord.
Ah, il n'y a pas beaucoup de monde quand même. Bien, il y en avait, là, mais c'était 46, pas comme...
Comme les appareils géants d'aujourd'hui là, qui ont des...
Parce qu'on parlait du Titanic tantôt, là, ça n'a rien
Mais maintenant, tu as des avions là, qui sont des 300, 400 personnes, des monstres.
Et même plus.
Alors, il y a un témoignage en terminant d'une dame, Madame Larocque, qui dit « Ça faisait assez drôle d'imaginer qu'il y avait du monde là-dedans. » qui nous passait là-dessus, qui nous passait au-dessus de la tête. On n'était pas les seuls qui étaient rendus à Saint-Hubert pour le voir. Elle dit, j'ai rarement, tu sais, c'est vraiment un commentaire, c'est la bonne madame là. J'ai rarement vu autant de monde réuni pour voir s'accrocher un ballon sur un poteau.
Madame Larocque.
Nos mères auraient dit ça, tu sais.
Peut-être.
Comme tant d'autres, elle a gardé un
merveilleux. Peut-être que oui, peut-être que non.
Comme étant d'autres, elle a gardé un merveilleux souvenir du R100, se balançant à cette tour construite spécialement pour lui. Et ce n'est pas étonnant. Saviez-vous que la venue du fameux R100 à Saint-Hubert, le plus gros aéronef du monde à l'époque, est de nos jours relaté comme étant l'événement touristique le plus important de toute l'histoire de la Rive-Sud? Il faudra attendre l'Expo 67 pour vivre à nouveau l'euphorie de tels rassemblements sur le territoire québécois. De quoi rester marqué. C'est un article d'une revue Nostalgie de 2021 que j'avais en réserve. C'était acheté durant la pandémie. C'était ma réserve. J'en ai une coupe comme ça en réserve.
Toujours d'actualité.
Un article de Carole-Anne Deslebeaux.
La venue du R100 à Québec en 1930. Histoire passionnante et aussi rigolote.
Oui.
D'une certaine façon.
Oui, c'est ça.
Merci, Serge. On écoute une chanson du groupe, un faux groupe de chanteurs, au retour, et ce sera la chronique de Daniel, La Chance.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Thank you. wondering why. So I thought I might discuss this girl just you and I. Now what you wear, I don't care how you cross it before. The reason that I like the girl is from what you are. If I said it, think about it, you rule my world, so try to understand. I'm in love, girl. I'm so in love, girl. I'm just in love, girl. And this is true.
Girl, you know it's true.
Final. Daniel, présentez-nous oui, cette chanson et ce groupe.
Oui, j'allais dire, vous venez d'entendre le groupe Vanilli, mais c'est un peu embêtant de dire ça, parce que c'est pas vraiment eux autres qui chantaient.
Ouais.
Je sais pas si vous étiez au courant. Ce groupe-là, je pense Vinny Vanilli, pas mal tout le monde au Québec les a connus, a entendu parler d'eux, ou a encore entendu parler beaucoup, entendu leur musique au moins. C'était un duo musical composé de Fabrice Morvan et Robert Pilatus.
Et, un français et un allemand.
Oui, oui. Le monsieur Robert Pilatus, c'était un allemand qui était né, je pense, à Munich. Puis il avait grandi dans une famille adoptive. Tout un développement là-dedans. Il est devenu musicien et chanteur. Et il s'était présenté au concours Eurovision avec un groupe qui s'appelait Wind. Et je pense qu'ils ne se sont pas vraiment qualifiés, mais il s'est fait quand même remarquer.
Il pouvait chanter.
Oui, il pouvait chanter. Et l'autre, le certain Fabrice Morvan, il était né à Paris, en France. Ses parents étaient originaires de la Guadeloupe. Et à 18 ans, il s'est installé en Allemagne. Il a travaillé un bout de temps comme mannequin, d'où son look. On sait maintenant pourquoi il avait été choisi. Donc, ces deux gars-là se sont rencontrés un peu par hasard dans une discothèque à Munich et ils ont décidé de faire un groupe ensemble. Ils ont décidé de chanter parce que l'autre, il faisait déjà de la musique. Et ils ont été remarqués par un certain producteur de musique qui fonctionnait beaucoup. Ce producteur-là s'appelait Frank Farian, qui est décédé en 2024 à Miami, en Floride, à l'âge de 82 ans. Mais pendant qu'il était vivant, il brassait de l'air. Je peux vous dire qu'il a fait pas mal de choses. Ce gars-là rêvait lui-même d'être un artiste de scène, d'être connu, de vendre beaucoup de disques et tout ça. Donc, il a travaillé depuis longtemps à écrire de la musique, à enregistrer, à se produire dans des spectacles. Mais sa carrière ne levait pas vraiment. Sauf qu'à un moment donné, il a décidé de travailler quand même en studio puis de lancer une chanson. Et ça a marché.
Hein?
Lui, n'a pas lancé la chanson sous son nom. Il a décidé de créer un nom de groupe, tout simplement, qui s'appelait Boney M. Mais c'est lui qui a chanté cette chanson-là.
Daddy Cool?
Avant Daddy Cool. Attendez un peu que je retrouve. Je suis habitué chez nous, mes deux écrans, on dirait, je ne sais pas où placer.
Non, ça se passe bien jusqu'à maintenant. Là.
Bon. Donc, il a lancé la première chanson, c'était quoi déjà?
The Boney M.
Bonnie M. En tout cas, oui, il a lancé Daddy Cool. Et ce qui est arrivé, juste pour vous raconter l'histoire rapidement, il a lancé une première chanson, ça a marché beaucoup. Il travaillait déjà pour une compagnie de disques, bien entendu. La compagnie lui a dit, écoute, ça joue déjà beaucoup sur certaines radios en Belgique et en Suisse et certains dans les Pays-Bas. Ça prend un groupe, ça prend du visuel pour faire la promotion de mm-hmm. ça, pour que ça se développe encore plus.
Est-ce que la chanson serait Rasputin ou Rivers
non,
of Babylon?
C'était avant ça. C'était okay. avant ça. Je vais le retrouver dans mes notes. Là, mais,
parfait.
Donc, il a décidé de créer un groupe. Il a choisi un danseur et des chanteuses qui faisaient du back vocal mm-hmm. et bon, qui dansaient aussi. Il a créé ce groupe-là qui s'appelait Bonnie M. Donc, le danseur qui s'appelait... Bobby Farrell, qui était un danseur qui venait des Caraïbes. Lui, tout ce qu'il faisait, dans le fond, dans les spectacles, c'est qu'il faisait du lip-sync. Il dansait. Il y avait un look.
Ça a commencé là.
Il mimait tout simplement parce que c'est Frank Farian lui-même qui a fait toutes les voix en studio.
Ah,
il avait
oui.
engagé des musiciens de studio, il a enregistré la trame sonore, il a fait les voix. Et les autres, c'était des marionnettes. Donc, le groupe Bonnie M est devenu très connu. Il y a eu plusieurs chansons qui ont marché beaucoup. Vous en avez nommé quelques-unes.
Ben, Daddy Cool, Rasputin.
Daddy Cool, Rasputin.
Ouais, Take the,
ils ont
the
fait,
Heat of Me.
Oui, ils ont fait même une version de Sonny.
Oui,
c'était
bon,
eux.
Ça.
Il y en a en fait une autre qui était On the River. Baby, Do You Want a Bump? C'est ça la chanson que je chantais. C'est la première qui a été lancée, qui a marché beaucoup, qui a lancé Bonnie M, dans le fond. Donc, le groupe Bonnie M est devenu très connu dans le milieu des... C'était à l'époque disco.
Disco
là, on est au milieu
on
des années 70.
Là-dessus.
Fait que ouais. là, donc, tout le monde connaissait Bonnie M. Tout le monde connaissait leur look. Il y avait vraiment un look assez particulier.
Ouais.
C'est dommage qu'on
n'a
pas de visuel ici. C'était très bon. Moi, personnellement, je ne les ai pas connus beaucoup. Et quand je voyais le danseur, supposément chanteur, je trouvais qu'il avait l'air weird un peu.
Mm-hmm. Mais il dansait bien.
Il faisait
ce qu'il avait à faire.
Il faisait ce qu'il avait à faire. Il faisait le job. Et d'ailleurs, ça marchait beaucoup. Sauf que c'est ça, ça a duré pendant plusieurs années, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a certains membres un peu qui se tannent parce qu'ils voulaient chanter eux-mêmes. Ils auraient aimé ça mm-hmm. quand même, que ce soit eux.
Tasse-toi, mon oncle Frank, on veut
ça.
Chanter.
On veut faire nos propres choses. Écris des chansons si tu veux, mais laisse-nous les interpréter. Il y avait une des chanteuses là-dedans qui a chanté un peu, qui a fait des back vocals, mais bon. Mais dans le fond, le groupe, c'était Marcia Barrett, Liz Mitchell, Maisie Williams... Mais les chansons, il y en a quelques-unes qui ont été chantées par Liz Mitchell, mais c'est surtout Frank Farian, le producteur, qui chantait. Puis Maisie Williams, elle n'a jamais chanté de toute sa carrière avec ce groupe-là. Elle a toujours été sur la scène à faire du lip-sync, tout simplement.
Hein?
Ça a pris du temps avant que les gens se rendent compte de ça, mm-hmm. que c'était pas les vrais. Je pense que quand ça a commencé à ressortir, c'est quand justement les membres du groupe ont commencé à se révolter un peu, à me dire mm-hmm. « on est tanné de faire juste les marionnettes ». Et l'autre raison, qui n'est pas banale non plus, c'est qu'eux, ils étaient payés seulement pour les performances. Tu es sur la scène, tu es payé. Les ventes de disques et tout ça, tu n'as
rien.
Rien. Absolument rien là-dessus. Fait que ça, c'est
Est-ce
ça
qu'on
qui
les
était...
écoute? Est-ce qu'on en...
Oui, on va écouter des extraits justement, ça va pour remettre dans le portrait.
Baby, do you want a bomb? Like
franchement, oui, ça fonctionne.
Ça donne une bonne idée. Donc, on a entendu des extraits de la première dont je vous parlais tantôt, qui était « Baby, do you want a bump? » Donc, c'est seulement la voix de Frank Farian qu'on entend là-dessus, mm-hmm. le producteur. Ensuite, il y a eu « Daddy Cool », « Sonny »,
avec les choristes.
Oui, et « Ma Baker ». C'est toutes des chansons qui ont marché beaucoup. Le groupe aurait vendu plus de 50 millions de disques, des 45 tours et plus de 60 millions d'albums. Quand
gros,
même.
Gros succès planétaire.
Ouais, et ça allait tout dans les poches du producteur parce que les membres du groupe étaient payés seulement pour des performances. Ouais. Fait que quand ça arrête, c'est fini, t'as plus rien.
Ça, c'est assez révoltant. Donc, il travaillait fort, mais il a exploité son groupe.
Lui, il a fini très riche, les autres ont fini dans la dèche pas mal. Donc, étant donné que cette formule-là marchait beaucoup et que le groupe commençait à baisser, ça prenait d'autres projets parce que Frank Farian, c'était un gars de projet puis il fallait que ça marche, il fallait que la musique, ça fonctionne. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré les deux petits messieurs en Allemagne, puis il a dit « Ces deux gars-là ont vraiment un look, ça va marcher. » Donc, il a enregistré encore là des chansons en studio avec d'autres chanteurs. Il les a quand même testés, il les a auditionnés. Les deux chanteurs, Frank et Fab, ils ont chanté en studio. Mais le producteur trouvait que c'était pas assez. C'était pas tout à fait ça. Il avait trouvé un autre chanteur qui avait la voix plus convaincante, mettons, sur ces chansons-là.
Mais pourquoi il a pas mis de l'avant le chanteur qu'il avait trouvé? Il avait un look moins intéressant.
Exactement. Hein? À un moment donné, ça se fait... Moi, je voyais un petit peu une scène comme dans la vieille émission Mission Impossible. Il y a des photos, là, ça entame. Il dit, OK, lui. OK, lui va chanter, mais on le verra pas. Lui, il va jouer tel rôle parce que lui, il vend bien, son image vend bien. Donc, c'est exactement ça qui est arrivé. Donc, les deux gars de Milli Vanilli, ils ont été traînés dans la boue. On les a traités de toutes sortes de noms. Mais au départ, eux, je ne veux pas les défendre, là, mais au départ, eux, ils voulaient se faire engager comme chanteurs. Mm-hmm. Ils voulaient vraiment performer.
Ils ont été manipulés.
Ils ont été manipulés. Ils se sont retrouvés à faire juste du lip-sync sur la scène. Ils ont travaillé quand même très fort parce que toutes les chorégraphies, je ne sais pas si vous les avez déjà vues
mais
dans des clips.
Mais comme Bonnie M, ils ont travaillé fort
sur les chorégraphies, tout ça. Faire du spectacle, c'est quand même, ça demande beaucoup d'énergie. Ils ont vécu toute la vie de pop star. Bon,
ils étaient super populaires.
Oui, et comme je mentionnais tantôt, hors d'onde, j'ai trouvé sur YouTube, ça vaut la peine d'aller voir ça, une entrevue que Claude Rajotte avait tenté de faire avec Milli Vanilli lorsqu'ils sont venus au Forum de Montréal.
J'imagine
que
ce n'était pas sa tasse de thé, hein, Claude Rajotte,
en partant,
Milli Vanilli.
C'était pas du tout sa tasse de thé. Ça paraît que ça ne l'intéresse pas. Et eux non plus, ça ne les intéresse pas.
Ouais.
Mais ce qui est un peu surréaliste, c'est que là, on voit Claude Rajotte essayer de leur parler en anglais, alors qu'il y en a un qui est allemand, qui ne parle pas très bien anglais, et l'autre est un Français qui est né à Paris. Donc, le Français répond à Claude Rajotte en anglais avec son accent.
Avec un accent français.
Claude Rajotte demande « D'où vous venez? » Donc là, Fab, il répond, ben moi, comme from Paris, France. Là, on se dit, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi Rajotte, il ne demande pas en français, coudonc? En tout cas, fait que l'entrevue, il n'y a pas d'entrevue. Ça tourne en rond. Maintenant, il y en a un qui se lève, il quitte la salle. Claude Rajotte, il dit, ça paraît qu'ils ne sont pas habitués de faire des entrevues. Il n'est pas de bonne humeur. En tout cas, ça ne dure pas longtemps.
Mais pourquoi il a quitté la salle?
Je ne sais pas. Il ne savait pas quoi répondre. Il se demandait ce qu'il faisait là. Donc, c'était quand les gens ont commencé à se rendre compte que ces deux gars-là ne faisaient que du lip-sync, parce qu'il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, c'était comme pas vraiment un concert, c'était comme un événement. Ce type de chanteur-là se présentait dans une salle, c'était un happening, tout le monde dansait, c'était un rave, c'était bon. On se préoccupait pas vraiment des studios, eux autres qui chantent ou non, on les voit pas assez pour ça. C'est des journalistes qui se sont rendus compte à un moment donné.
C'est ce que je me demandais.
Il y avait des signes, puis le premier signe, c'est un peu comme il y avait du lip-sync. Ben c'est ça, il y avait des signes de lip-sync. Quand les journalistes ont commencé à se poser des questions, dire comment ça fait qu'un Allemand qui parle presque pas anglais, puis un Français chante avec cette diction-là en anglais qui est très,
sans
très
accent,
internationale, sans accent, ça passe bien. Puis l'autre chose, c'est qu'il est arrivé des gaffes. On appellerait ça des bloopers à la télé. Là. Mm-hmm. À un moment donné, l'enregistrement sonore ne fitait pas avec ce que chantait en lip-sync.
C'était pas synchronisé.
Donc ça, encore là, le public n'a presque rien vu. C'est des journalistes qui ont fait « Non, il y a quelque chose qui ne marche pas ici.
Ouais, » ouais.
Mais on peut se dire que même des chanteuses comme Madonna, tout ça, il y en a qui utilisent des trames sonores préenregistrées. Donc encore là, c'était pas si grave parce que ça aurait pu être quand même eux qui avaient enregistré ces trames-là.
Mm-hmm.
Mais c'est comme une tempête parfaite. Il y a eu ces indices-là et il y a eu aussi le fait que les chanteurs qui ont chanté ces chansons-là, les originaux en studio, il y en a un des deux qui a fait Là, ça va faire, là. J'aime pas bien ben ça, moi, savoir que j'ai été payé juste pour quelques heures de studio, puis que les autres récoltent toute la gloire, puis que le producteur se remplit les poches, puis que moi, j'ai été payé pour ma job, puis ça finit.
Il n'y avait rien signé, là, comme quoi il fallait pas qu'il.
Je ne sais pas s'il avait signé, mais c'était pas très fort parce qu'à un moment donné, il a commencé à s'ouvrir la trappe. Alors, le producteur, en bon gestionnaire de crise, il a décidé lui-même d'admettre que ce n'était pas les deux gars de Milli Vanilli qui chantaient. Ça, ça a fait un scandale. Ouais. Excusez l'expression, ça de partout. Ça n'a vraiment pas bien été. Il a essayé de rattraper ça en disant « On va produire un disque avec leur voix à eux. » Là, il y a eu toutes sortes de dérapages, de glitches. Je pense qu'ils devaient produire le disque sous le nom de Rob et Fab, leur prénom à eux. Finalement, l'imprimeur, il n'a pas eu le mémo au bon moment. Il a appelé ça quand même Milli Vanilli. C'était pas la chose à faire. Le monde voulait plus entendre parler de Milli Vanilli.
Non, il se sentait floué.
Non. Fait que là, ça n'a pas vraiment marché. Suite à ça, les deux gars ont commencé à essayer de faire quand même une carrière ensemble. Ça n'a jamais vraiment décollé. Mais ils ont quand même eu un certain succès. Puis
avec leur vraie voix.
Oui, oui. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez trouver plusieurs vidéoclips de Fab Morvan qui fait des concerts tout seul en chantant des chansons de Milli Vanilli.
Aujourd'hui,
oui, ouais, il y a des concerts qu'il a fait dans différents festivals.
Plus en vie.
Non, l'autre, il est décédé. Est-ce que je l'ai mentionné tantôt? Je pense
non.
que oui.
On va parler en dehors des ondes, je crois bien.
Oui, bon, en tout cas,
mais je suis pas sûr,
Robert Pilatus est décédé d'une overdose accidentelle de médicaments et d'alcool près de Francfort en avril 1998.
Ouais, fin tragique.
Fin tragique parce que les derniers temps de sa carrière, c'était très décevant. Ça ne fonctionnait pas vraiment. Je regarde le temps passé.
Bon, on y va avec des extraits.
Oui, j'aimerais ça quand même vous faire écouter des extraits de certaines chansons de Milli Vanilli parce qu'ils n'ont quand même pas juste « Girl, you know it's true ». Donc, on vient d'entendre des extraits de « Girl, I'm gonna miss you »,« Baby, don't you forget my number »,« All or Nothing et une reprise de Ma Baker qui avait été faite auparavant par Boney M.
On recycle.
Le producteur s'est dit, bon, ça prend une chanson pour finir cet album-là. J'en ai une qui a déjà marché, je vais en modifier un peu, c'est eux autres qui vont la chanter.
Ouais. Finalement, c'était le producteur qui était le plus grand des tricheurs. Puis au début, je disais que le groupe était des imposteurs. Oui, il y a une certaine partie d'imposture, mais ce sont surtout des victimes.
Ce sont surtout des victimes. Si on en croit surtout leur version, leur histoire, eux ont toujours voulu chanter, ont toujours voulu monter sur la scène et en studio aussi, enregistrer leurs propres chansons, mais ils sont embarqués dans le jeu du producteur et c'est comme ça que ça s'est fonctionné.
Et vous avez choisi une chanson de Milli Vanilli pour clore cette chronique, évidemment, Serge? Oui. Pas Serge, mais Daniel?
Oui, c'est un autre verre d'oreille. Je m'excuse à l'avance, je suis sûr que vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. Ça s'appelle Blame It on the Rain.
Merci Daniel, merci Serge et merci Isabelle.
Merci.
Plaisir. We'll be right back.
pouvez rejoindre. Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
J'avais pas grand chose à faire, ça me dérangeait pas. Assis avec mon laptop ouvert dans un restaurant chinois. Au bout de deux, trois, quatre théières, j'ai entendu des voix. Je suis sorti par en arrière, mon ordi en dessous du bras. Soudain comme un flash, oui c'est vrai, je l'avais lu dans le biscuit. T'étais là, t'étais belle, tu m'aimais telle que j'étais, telle que je suis. Wow, comme dans le biscuit. Une musique liquide à saveur de jujube, d'alcaloïde. Parcouru les cours arrière de Parthenay jusqu'à Valois. La musique électro dans des speakers de tombola. Puis des vrais guides, des guitares sèches, puis un sitar dans un wah-wah. Un vrai sitar de Marrakech, une guimbarde du Canada. Soudain comme un flash, je me souviens, je l'ai entendu dans le biscuit. Le même son, le même air, le même groove, dans le même esprit. Wow, comme dans le biscuit. Moi qui prenais pas ça au sérieux, là, j'ai tout compris. J'avais pas grand chose à faire, je venais juste de tomber dans l'une, juste à côté de la théière, un cookie de bonne fortune. C'était tout écrit, sans détour, que tu repartirais un jour. Ah, les moments de grâce, c'est comme le reste. Un jour ça passe, un jour ça blesse. Soudain comme un flash, oui c'est vrai, je l'ai lu dans le biscuit. T'étais là, t'étais belle, tu m'aimais telle que j'étais, telle que je suis.
Biscuit chouis.
Biscuit chinois, exercice de diction.
On dirait que j'avais du biscuit chinois dans la bouche de Marc Derry, désolé.
Dites fruit cuit, fruit cru.
Non, je vais faire ça quand le micro sera fermé.
Alors, c'est Christiane Campagna qu'on entend rire. Bonjour, Christiane.
Bonjour, Hélène.
Christiane, qui est chargée de communication chez Biblio Presto. Biblio Presto, un organisme qui appuie les bibliothèques en leur offrant des services numériques. Et ça donne bien, puisqu'aujourd'hui, vous parlez des ressources numériques offertes par nos bibliothèques publiques. Alors, Christiane, qu'est-ce qu'on entend par ressources numériques?
Bien, en fait, il s'agit de plein de services auxquels on a accès gratuitement grâce à notre abonnement bibliothèque. Certains sont conçus spécialement pour les bibliothèques, d'autres non, mais notre abonnement de bibliothèque permet d'y accéder gratuitement. Je pense par exemple, on va y revenir plus tard, mais au site de Protégez-vous, où normalement pour avoir accès à tout, il faut un abonnement, mm-hmm. mais si on passe par sa bibliothèque, on y a accès gratuitement.
Wow! Est-ce que toutes les bibliothèques offrent les mêmes ressources?
Non. Les chroniques précédentes, on a parlé de prêt numérique qui est offert par la majorité des bibliothèques. Là, l'offre des ressources varie d'une institution à l'autre. Si vous habitez une plus petite municipalité, elles ne seront pas sur le site de votre bibliothèque. Elles vont être sur le réseau biblio affilié à votre bibliothèque dans la majorité des cas. Et puis, c'est Bibliothèque et Archives nationales qui a la meilleure offre, qui en offre le plus. Je rappelle que tout le monde au Québec peut s'abonner à BANQ à distance.
Merci pour ce rappel.
C'est ça. Aujourd'hui, au fil des deux prochaines chroniques, je vais vous présenter différentes catégories. Aujourd'hui, je pense que les deux catégories nous amènent à quelque chose d'important dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, avoir accès à des sources fiables et vérifiées. Mm-hmm. Dans cette ère de désinformation, là, je pense que c'est important.
Alors, quelles sont les plateformes qui permettent de lire des journaux et des magazines?
Pour ça, je dirais qu'il y a trois grandes catégories. Pour monsieur, madame, tout le monde, la catégorie qui va être la plus intéressante, c'est la première, c'est celle qui permet de parcourir et lire des versions numériques de publications. Elles sont particulièrement utiles si vous avez une tablette, parce que, lire un magazine ou feuilleter un journal sur un téléphone, c'est un petit peu petit, mais ça peut se faire aussi sur un ordinateur portable. La plupart de ces ressources-là ont aussi une version web. Mais il n'est pas possible d'utiliser les liseuses pour ça, parce que la plupart de ces applications-là, c'est ça pour, en mobile, utilisent une application, justement. Et on peut, je l'avais déjà expliqué, là, c'est limiter les applications sur les liseuses. Les plus répandues, dépendamment des bibliothèques, il y a Biblimags. Biblimags, tout de suite, je vous le dis, c'est celle offerte par BiblioPresto. Alors, je vais pouvoir élaborer davantage sur celle-là. On y trouve des magazines québécois populaires. C'est la seule qui a Ricardo. Vous pouvez aussi lire Véro, Châtelaine, Elle Québec. Il y a quelques titres français, dont Elle France et le Vogue France. Et puis, il y a une très bonne offre de magazines américains, là, le New Yorker, le New York Magazine, Vogue. Tout ça, c'est disponible sur Biblimags. Puis, c'est aussi le seul de ces services-là, là, de ceux où on feuillette, où vous avez accès à une partie des revues culturelles de la SODEP. Mmh. Alors, Lettres québécoises, Nouveaux projets, Liberté, Cap au diamant, tout ça, c'est disponible sur Biblimag.
Et c'est gratuit.
C'est gratuit. Alors, il faut... Ça fonctionne par licence et par des mathématiques complexes qui font qu'il y a des redevances de données aux publications. Alors, vous n'êtes pas en train de pirater quoi que ce soit ou de piller quiconque. Là. Elles savent qu'elles sont là, ces publications-là, et elles reçoivent des redevances. Là. C'est vrai pour tout ce que je vais dire aujourd'hui. Là. Donc, il faut ouvrir un compte pour l'utiliser. Si c'est en mobile, vous téléchargez aussi l'application. Puis ensuite, il faut lier notre compte de Biblimags à notre compte de bibliothèque quand on veut l'utiliser. Mais c'est celle où, je dirais, pas sur le web, mais en version mobile, je dirais, de toutes ces applications-là, parce que je les utilise toutes, hein. J'utilise aussi la concurrence là, dans ma vie personnelle, ou pour comparer aussi des fois.
Bien oui.
C'est celle qui se déconnecte le moins de notre bibliothèque. Donc, une fois qu'on est connecté, là, ça se déconnecte presque pas et elle est très intuitive à utiliser. Moi, c'est celle que j'ai mise sur la tablette de ma mère. Puis je dis pas ça juste parce que c'est BiblioPresto, là. Dans les suivantes, je les mettrai pas toutes parce que j'aurais peur qu'elle sache pas comment se connecter à chaque fois.
Ça soit compliqué pour rien.
Elle est très conviviale. Mais...
Easy. Comment on dit ça en anglais?
User-friendly.
User-friendly.
En fait, c'est la première chose qui m'est passée par la tête et j'ai switché juste à temps. Excusez-moi.
Vous avez switché?
Oui, c'est ça.
C'est moi là qui vous amène vers les anglicismes. Alors, Press Reader.
Oui, Press Reader, c'est quand même assez répandu. Beaucoup de bibliothèques, dont les bibliothèques de Montréal, ont Press Reader. Celle-là vient aussi avec une offre de journaux. Vous pouvez lire beaucoup des grands quotidiens d'un peu partout dans le monde et d'ici aussi là, avec Press Reader. Elle est un petit peu moins intuitive comme plateforme, par contre. Et il y a le service Libby, dont j'avais déjà parlé, qui est un peu l'équivalent américain, anglophone de prêt numérique, qui est offert par plusieurs bibliothèques. Et il y a aussi une offre de magazine dans une section de Libby. Alors, avec les trois, c'est rare les bibliothèques qui ont les trois. Là. Généralement, les bibliothèques en offrent une, parfois deux. Tu sais, il arrive qu'elles aient Libby pour les livres, donc, et qu'elles prennent aussi Biblimags ou Press Reader. Mais si vous êtes abonné à BNQ, vous avez accès aux trois.
Bon, alors raison de plus pour s'abonner à BNQ.
Ils ne savent pas, je suis en train de leur faire de la publicité aujourd'hui. Je vais écrire à leur relationniste.
Ils vont être contents.
Une autre catégorie, c'est celle des bases de données d'articles. Dans ces cas-là, on ne se trouve pas à feuilleter des numéros. On cherche l'article avec le titre ou, et on a accès à l'article, que généralement en format PDF. C'est particulièrement pratique pour la recherche, pour citer des sources, des choses comme ça. Les plus courantes en français, là, les plus connues, c'est Érudit et Eureka, deux bases québécoises. Mais il y a aussi plusieurs de ce type de bases-là en anglais. Et finalement, il est, comme je le mentionnais en introduction, il est parfois possible d'utiliser son abonnement pour avoir accès au site web d'un média comme si vous étiez abonné. Et le meilleur exemple de ça, qui est relativement récent, là, c'est Protégez-vous. On a donc, en passant par sa bibliothèque, en passant le chemin pour accéder aux ressources numériques de la plupart des bibliothèques, généralement, il y a un onglet ressources numériques sur le site des bibliothèques. Et là, si vous passez par là pour accéder à Protégez-vous, vous avez accès à tous les articles, les tableaux, tout ça. Parce que quand on trouvait les articles d'Eureka, de Protégez-vous, dans Eureka, on avait accès aux articles trait de texte.
Là. Ah oui, on n'avait pas accès à tout oui, le magazine.
Oui, c'est ça. Et mauvaise nouvelle pour les gens de Montréal et Québec.
Comment ça?
Parce que ces deux grandes bibliothèques-là n'offrent pas Protégez-vous. Et cette fois-ci, vous ne pouvez pas vous rabattre sur BNQ, qui ne l'offre pas non plus. Mais demandez-le, hein? Plus de gens vont le demander, plus ils vont peut-être se décider à l'avoir. Mais bonne nouvelle pour les gens de Longueuil, de Laval, de Lévis et d'une quarantaine d'autres municipalités au Québec là, qui ont accès à Protégez-vous de cette façon-là. Puis il y a d'autres bases, mais souvent sont en anglais plus savantes. Mais je sais que, par exemple, il y a des bibliothèques qui offrent accès au New York Times de cette façon-là. Vous avez accès au site du New D'accord. York Times. Mais je ne m'y connais pas parce que ce n'est pas offert là, par mon organisme.
Mais savez-vous pourquoi Montréal et Québec ont été mis de côté par Protégez-vous?
Plus c'est gros, plus... Ils n'ont pas été mis de côté par Protégez-vous. Ils n'ont pas choisi de prendre la ressource.
OK, je comprends. D'accord, c'est plus clair.
C'est ça.
Bon, et parmi ces ressources, on trouve des dictionnaires et des encyclopédies?
Oui. Comme vous le savez, on trouve différents dictionnaires et encyclopédies en ligne, mais plusieurs aussi ont un mur payant, surtout quand on veut aller dans les détails. Et c'est souvent ceux qui représentent les sources les plus crédibles, par exemple, si on est en train de faire un travail scolaire. Alors, c'est intéressant de savoir qu'on peut y accéder via notre bibliothèque. Alors, je vous donne des exemples. L'Encyclopédie Universalis est accessible via plusieurs bibliothèques. Le Grand et le Petit Robert. Ce qui est pratique, parce que souvent, hein, à la maison, on a un petit Robert qui date, qui n'a peut-être pas toujours les mots les plus récents.
De 1988, genre.
Ça se peut qu'il y ait des concepts d'informatique, oui, par exemple, qui ne soient pas tout à fait à jour. On a accès au Robert et Collins, au Larousse.fr, au Multi, un dictionnaire québécois qui aborde beaucoup, notamment la question des québécismes, le Merriam-Webster, et aussi, il y a une panoplie de dictionnaires spécialement conçus pour les jeunes, le dictionnaire visuel, le Dixel et les versions juniors là, des Robert et de Universalis.
Merci, on apprend tellement de choses avec vous. Merci Christiane Campagna, chargée de communication chez Bibliopresto. On se retrouve la semaine prochaine.
Bien sûr, à bientôt.
Chronique des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour.
Julien, on y va avec une nouvelle tirée de Franco-Presse. Peu de données sur les droits linguistiques dans les prisons canadiennes.
Oui, on s'est demandé si les services en français s'appliquent dans les prisons fédérales, donc qui relèvent du gouvernement du Canada, pas nécessairement celles des provinces. Le commissaire aux langues officielles nous a confirmé que la loi sur les langues officielles s'applique bien dans les prisons. Puis, Service correctionnel Canada dit qu'il offre des services en français quand ils sont demandés et il propose même des formations linguistiques à ses employés. Mais ils n'ont pas pu nous dire ou ils n'ont pas voulu nous dire combien de postes bilingues existent dans les prisons, combien de personnes emprisonnées ont fait des demandes de services en français. On a parlé malgré tout à un professeur de droit de l'Université d'Ottawa, Joao Veloso, qui s'intéresse aux droits des personnes détenues. Il nous a dit qu'avant la création du projet Prison Transparency Project, qui étudie justement le niveau de transparence de l'information sur les prisons au Canada, en Argentine et en Espagne, bon, il disait que même avant ce projet-là, on savait que c'était difficile de faire des études sur quoi que ce soit dans les prisons, mais surtout sur la langue, parce qu'il n'y a pas de données publiques vraiment disponibles là-dessus. Le professeur Veloso rappelle aussi, par contre, que c'est important d'avoir des services en français dans les prisons, parce que le système carcéral canadien est basé sur la réhabilitation. Si on ne peut pas offrir les services dans la langue du détenu, ben ça diminue, ça a le potentiel de diminuer largement les effets positifs qu'on attend.
Un drame marin soulève des questions sur la préparation des autorités. C'est dans la voie acadienne.
Oui, le 27 septembre, il y a trois cachalots qui se sont échoués sur une plage de l'île du Prince-Édouard. La voie acadienne rapporte le désarroi des résidents qui ont signalé quand même ça assez rapidement aux autorités. Malgré cet appel à l'aide et le passage des autorités, les baleines sont mortes après quelques jours. On n'a pas pu les remettre à l'eau. Puis, les résidents se demandent pourquoi. La Marine Animals Rescue Society, de son côté, dans l'article, rappelle que remettre une baleine à l'eau, même si je pense que c'était des bébés, c'était pas des adultes, c'est quand même pas si simple. Par exemple, ils disent qu'on peut pas tirer par la queue. Ça peut causer plus d'autres blessures. Ces animaux-là sont pas faits pour être hors de l'eau. Donc, les bouger quand ils sont seulement dans 30 cm d'eau, on disait à un certain endroit, ça peut être délicat. Malgré tout, les résidents pensent que les autorités ont abandonné trop rapidement d'essayer de les sauver. Les employés, comme je disais, sont arrivés après qu'on ait signalé leur présence, sont arrivés sur place, ont resté quelques heures, ont observé, mais sont repartis sans rien faire et ne sont jamais revenus pour les remettre à l'eau. Il y a une dame qui dit qu'on n'a même pas essayé, du moins on dirait qu'ils n'ont même pas essayé d'abréger les souffrances des mammifères par l'euthanasie. Ce qui est clair, c'est que la situation... C'est pas simple à gérer ces situations-là. Donc, les résidents se demandent s'il n'y aurait pas une meilleure façon d'intervenir, de mieux se préparer, parce qu'on s'attend à ce que ça arrive de nouveau avec les changements climatiques.
Bon, alors, de la tristesse, on passe au rire. Faire rire en français à Toronto, c'est dans l'Express.
Oui, qui nous apprend qu'il y a une soirée micro ouvert pour les humoristes en herbe à Toronto. Ça s'appelle Francomédie. Ça existe depuis environ un an et demi. C'est le petit frère d'une autre soirée de micro ouvert qui s'appelait Franc Open Mic. C'est des soirées qui permettent de chanter, de danser, de jouer de la musique, de faire de l'humour. Donc, on a voulu créer une soirée entièrement dédiée à l'humour, comme une petite sœur ou petit frère de l'autre. C'est encore petit. Le public qui était là à la soirée où l'Express était présent était majoritairement composé des amis et de la famille, de ceux qui présentaient des numéros. L'organisateur Serge Paul explique quand même que le but, c'est pas de créer nécessairement un public fidèle qui revient à chaque fois parce que les un peu comme un humoriste qui essaye son spectacle, qui rôde, essaye de ses blagues, les humoristes en œuvre peuvent revenir plus qu'une fois pour essayer d'améliorer leur numéro. Donc, ça peut être un peu répétitif si on y va trop souvent. Bref, ça avait commencé en force là, il y a un an et demi avec des noms assez connus de gens, d'artistes de l'Ontario. Mais les organisateurs espèrent que ça va continuer.
Des soirées qui font beaucoup de bien. Et on passe maintenant au dialogue autour du bilinguisme manitobain.
Parce que le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, a récemment annoncé son intention de faire du Manitoba la prochaine province officiellement bilingue du Canada. Ça fait que la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada a saisi l'occasion pour organiser une rencontre à Saint-Boniface, au Manitoba, pour, entre autres, montrer son appui au projet et voir commencer peut-être la discussion. La FCFA veut encourager la province à aller de l'avant, mais insiste sur l'importance de bien faire les choses. Puis l'organisme est prêt à contribuer, mais bon, il n'y a pas de plan encore, donc ils vont attendre les décisions de la province pour savoir comment ils peuvent être utiles. Le gouvernement est d'ailleurs en consultation, c'est commencé pour voir comment on peut lancer cette initiative-là, comment on peut instaurer le bilinguisme officiel dans la province. Après les consultations, il devrait avoir un plan d'action. Il devrait être élaboré. Puis, je vous rappelle que le français a toujours été présent au Manitoba, notamment en raison de la présence des Métis. Ça fait qu'il y a quand même 300 ans d'histoire francophone.
Êtes-vous déjà allé au Manitoba, Julien?
Non, j'ai pas eu cette chance. Je suis allé dans d'autres provinces, mais Manitoba manque encore à mon expérience.
Oui, j'aimerais bien y aller là où est né Gabriel Roy. Et on passe à la francophonie qui se mobilise face à la grève des enseignants albertains.
Il y a en ce moment 51 000 enseignants en Alberta qui sont en grève depuis le 6 octobre. Ça inclut évidemment ceux des écoles francophones. Le journal Le Franco raconte comment il y a des groupes communautaires qui sont organisés, entre autres des petits groupes communautaires, oui, et des organismes sans but non lucratif, se sont organisés pour créer des petits groupes de garde d'enfants pour dépanner les parents qui n'ont pas d'autres alternatives pendant cette grève-là. C'est pas tous les parents qui peuvent arrêter de travailler. Donc, on s'est organisé comme ça. Les organismes ont créé parfois des trucs à prix réduits, mais c'est pas comme 10 $ comme les garderies, mais c'est plus comme autour de 30 $ par exemple. C'est le chiffre qu'on donne dans l'article. Il y a une mère qui raconte aussi que sa fille aînée s'est proposée pour garder les enfants plus jeunes autour de chez elle. Il y a quand même plus de besoins que d'offres. Par exemple, à Calgary, il y a un groupe qui a ouvert un service pour 16 enfants, mais la demande qu'ils reçoivent est beaucoup plus importante que ça. Puis en ce qui concerne la grève, les négociations sont dans l'impasse, ce qu'on nous dit. Les professeurs ont refusé la dernière offre du gouvernement à la fin septembre, qui proposait une augmentation salariale de 12 % sur 4 ans et l'embauche de 3 000 nouveaux enseignants sur 3 ans. Les discussions sont supposées avoir repris hier.
On souhaite un dénouement heureux, évidemment. Et on termine avec la baisse du financement fédéral du Collège nordique.
Le Collège nordique, c'est le seul établissement postsecondaire entièrement francophone dans les territoires canadiens. Donc, quand on regarde le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ils ont reçu une très mauvaise nouvelle. Donc, début septembre, le patrimoine canadien a réduit le financement du Collège à peu près à le tiers. Des financements, surtout qui avaient été augmentés au cours des dernières années parce qu'on avait des projets d'expansion, on voulait offrir plus de cours, donc le gouvernement s'était impliqué et on avait donné un peu plus de financement. Selon l'Aquilon, il y aurait eu 4 postes qui auraient été supprimés, mais c'est pas la fin des démarches que doit prendre la direction. Le collège dit avoir pu sécuriser du financement pour 3 ans, donc son existence n'est pas menacée, mais comme je disais, l'argent obtenu au cours des dernières années avait permis d'augmenter les services. Là, ils vont devoir reculer et en réduire une partie. Il y a probablement des programmes qui vont être touchés, mais le directeur Patrick Arsenault a souligné qu'il n'était pas encore à l'étape de cette réflexion-là, de savoir exactement qu'est-ce qui allait limiter de ce côté-là. C'est pas mentionné dans l'article, mais ailleurs, un autre média a mentionné que ce serait les coupes demandées par le gouvernement Carney de 15 % dans le budget fédéral qui auraient entraîné cette réduction-là. Puis l'Aquilon se penche beaucoup aussi dans l'article sur la suppression qu'entraîne les drames humains qu'entraîne la suppression, pardon. Par exemple, une des personnes dont le poste a été supprimé était une personne immigrante arrivée au Canada avec un permis de travail fermé, donc elle ne peut pas changer d'employeur, elle va devoir peut-être retourner chez elle, puis une autre personne qui attendait son deuxième enfant.
Ah, des problèmes. Il y en a beaucoup. Merci, cher Julien. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. des blackouts trop alcoolisés. J'ai fait couler des larmes et ça je préfère oublier. Mais là j'ai pas décidé. Depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier. D'oublier qu'on s'est aimé. L'odeur de tes draps froissés s'efface petit à petit. Et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mes potes me disent de tourner la page et d'avancer. Mais quand le film est beau, je veux encore le regarder. Chant contre chant, j'oublierai. Ça floutera les plans de nos scènes de cul dans la cuisine. Moi, je suis un peu brisée et toi, t'es un peu triste. Tout va se réparer, j'oublierai même que t'existes. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi, je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe.
Moi je veux pas que le temps passe.
Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface.
Emma Peters et sa chanson Le temps passe.
Ouais, et on ne veut pas que le temps passe. Mais il passe et il ne repasse pas. Alors, on en profite, hein? Profitons des beautés. C'est encore beau. Je ne sais pas si vous avez remarqué les couleurs, si vous êtes allé voir les couleurs. En tout cas, j'espère que vous aurez cette chance parce que les feuilles commencent à tomber. Ici Hélène Denis, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain, je l'espère bien, en direct à partir de 9h30. Sinon, vous pouvez nous écouter en rediffusion sur notre site. Bye bye.